Mais bien-aimé, en attendant d'arriver à ce jour de l'éternité dont nous parle Pierre et que nous avons mentionné sur ce tableau, j'ai demandé intensément au Seigneur qu'il nous fasse au moins passer ce matin une heure d'éternité. Que nous ayons comme un avant-goût de cette éternité pour que les choses invisibles, ces choses que nous ne voyons pas encore, deviennent pour nous des réalités. Et qu'est-ce qui se passera dans l'éternité? Nous serons avec qui? Nous serons avec le Seigneur. Et tout mon désir, et je sais que c'est aussi le vôtre, c'est que ce matin, les uns et les autres, nous puissions éprouver au milieu de nous la présence réelle de Jésus. Et pour introduire ce culte, j'aimerais vous lire ce que l'apôtre Pierre disait dans sa prédication de Pentecôte aux Juifs venus de tous les coins du monde connu pour célébrer la fête à Jérusalem. Ayant expérimenté la promesse du Père, étant rempli du Saint-Esprit, Pierre s'adresse au peuple, étonné de ce qui se passe à Jérusalem et de voir ces quelques hommes sans culture louer et bénir le Seigneur dans toutes les langues qu'ils peuvent comprendre sans interprétation. Je lis depuis le verset 22 de ce chapitre 2. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi. » Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera en espérant. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Et je souligne ces paroles. Tu me rempliras de joie par ta présence. Qui s'exprimait ainsi? Est-ce seulement David? L'apôtre Pierre précise que ce n'est pas David dont il est question. Celui qui parle ainsi, c'est le Seigneur lui-même. Qui, durant tout ce temps qu'il a passé sur la terre, au milieu des hommes, a vécu dans la présence de Dieu. Il était dans ce monde, mais en même temps, il était dans le sein de son Père. Et c'est ce qui lui permettait d'apporter partout où il allait une parole qui n'était pas la sienne, mais la parole même du Père, la parole de Dieu. Tu me rempliras de joie par ta présence. Et même en face de la croix, dans la nuit où il fut livré, Jésus, en effet, a parlé de sa joie à ses disciples et a souhaité que cette joie qu'il avait dans cette nuit-là soit vraiment en eux. Puis à Gethsémané encore, là où il a connu l'angoisse et la sueur sanglante, alors qu'il acceptait de boire la coupe du courroux et de la colère de Dieu, il a prié son Père dans cette merveilleuse prière du chapitre 17 de Jean en disant: je leur ai dit ces choses afin que ma joie, soit en eux. Et nous voudrions, les uns et les autres, quelles que soient nos circonstances, nos préoccupations, et je dirais même nos tristesses, nous voudrions que le Seigneur, par sa présence, nous remplissent de joie, que nous puissions connaître sa joie à lui, cette joie dont il parle. Nous voulons prier. Ô Dieu, ce miracle de la présence de Jésus au milieu de nous, tu peux l'accomplir ce matin. Tu peux faire qu'individuellement, nous puissions rencontrer en cette heure le Fils de ton ami et vivre avec lui, en lui, une heure d'éternité. C'est la grâce que nous te demandons par le Saint-Esprit qui veut agir en chacun de nous. Nous croyons que cette puissance qui a libéré Jésus des liens de la mort peut aussi libérer nos cœurs de tout ce qui les retient encore captifs et qui les empêcherait de s'épancher en ta présence. Nous te demandons vraiment une heure où nos cœurs puissent s'épancher en ta présence. Père, tu cherches des adorateurs, des adoratrices qui t'adorent en esprit et en vérité. Que nous vivions cette heure d'éternité pour ta seule gloire. Et bien aimé, c'est en effet de la présence du Seigneur que j'aimerais que nous puissions nous entretenir quelques instants. Et que nous puissions nous poser cette question: est-ce que vraiment nous aimons, est-ce que vraiment nous connaissons la présence du Seigneur? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 18e, nous lisons qu'Abraham se tenait en présence de Dieu. Verset 22e. Les hommes qui sont des anges s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tait encore en présence de Dieu. Et quand on se tient dans la présence de Dieu, on entend Dieu nous confier ses secrets. Abraham a su à l'avance ce qui arriverait à Sodome et il a pu intercéder. Un homme qui se tenait dans la présence de Dieu. Je prends maintenant un autre exemple, dans la Genèse encore, au chapitre 48. Jacob parle à son fils Joseph. Et au verset 15, du chapitre 48 de la Genèse, en bénissant Joseph, il lui dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit, ou qui a été mon berger, selon une autre version, depuis que j'existe jusqu'à ce jour, et que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Donc, ça veut dire que Joseph, ayant appris que son père était malade, lui rend visite avec ses enfants pour que Jacob, avant de mourir, puisse les bénir. Et là, Jacob est conscient qu'il n'a pas été à la hauteur d'un Abraham qui a vécu dans la présence de Dieu, qu'il n'a pas été à la hauteur même d'un Isaac, son propre père, qui malgré ses lacunes a aussi vécu dans la présence de Dieu. Alors il dit que le Dieu devant la face desquels mes pères ont marché, Abraham et Isaac. Vivre dans la présence de Dieu, c'est vivre devant la face de Dieu. C'est vivre dans cette lumière de Dieu. Mais il dit, ben pour moi, qui me suis si souvent écarté, qui était une brebis rebelle, indocile, eh bien je peux dire qu'il ne m'a quand même pas abandonné. Je n'ai pas été à la hauteur de mes pères, Abraham et Isaac, mais Dieu pourtant, devant la face desquelles mes pères ont marché, Dieu a eu pitié de moi. Il a été mon berger, il m'a ramené dans le droit chemin, il m'a conduit depuis que j'existe, donc dès notre naissance. On n'en est pas conscient toujours, mais un jour on prend conscience de cela. Et voyez-vous, quand on arrive près de notre fin, on devient réellement conscient que toute notre existence a été contrôlée et s'est passée quand même sous le regard de Dieu. Nous n'avons pas toujours été sous le regard de Dieu, nous n'avons pas eu cette conscience, mais nous étions pourtant sous le regard de Dieu. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Il n'y a pas un lieu où nous puissions nous cacher. Jacob et les patriarches ont aimé la présence de Dieu. Maintenant, je passe à Moïse, dans un chapitre qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps, chapitre 23 de l'Exode. Et je demande à Dieu aussi qu'il vous parle à la fin de cette retraite. Verset 20 du chapitre 23 de l'Exode. Moïse est sur la montagne du Sinaï. Et le Seigneur lui parle. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Je demande au Seigneur par son esprit de vous révéler tout ce que cela veut dire. Vous allez quitter ce lieu. Est-ce que vous êtes conscient que le Seigneur va envoyer son ange devant vous? J'envoie mon ange, dit le Dieu qui ne peut pas mentir, devant toi, pour te protéger en chemin. Jacob, à la fin de sa vie, reconnaît qu'il était protégé en chemin. Et c'est vrai. Eh bien, à Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui dit, j'envoie mon ange pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Du côté de Dieu, il n'y avait pas d'obstacle. Vous pouvez arriver. Il vous fera arriver. Mais si vous pensez que vous pouvez arriver vous-même, que vous allez vous en sortir vous-même, eh bien non, vous tomberez dans le désert. Mais si vraiment vous êtes décentré, comme nous l'avons vu hier soir, de vous-même, pour vous centrer sur le Seigneur, lui vous fera arriver au lieu qu'il a préparé pour vous. Mais cela, vous devez le comprendre. C'est lui, ce n'est pas vous qui arriverez. C'est lui qui vous fera arriver. Et qu'est-ce que c'est ce lieu qu'il a préparé pour nous? Oh, que j'aime entendre le Seigneur dans cette nuit où il a institué l'Eucharistie, où il a institué la Sainte Cène, ce repas que nous allons prendre ensemble. Il dit, vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je vais vous préparer une place. Le lieu qui est préparé pour nous, c'est vraiment la maison du Père. Là, j'ai ma place. Je n'ai pas ma place au cimetière. J'ai ma place dans la maison du Père. Il est allé nous préparer une place. Je vous ai préparé une place. Et je vous amènerai au lieu que j'ai préparé pour vous. C'est pas l'enfer. C'est la maison du Père dont un des fils de Corée a pu dire combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées. Psaume 84. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Plusieurs demeures très aimables. Est-ce que nous y entrons parfois en esprit et dans cette maison du Père? Jésus sur la terre, c'était son seul refuge. Vivant au milieu des hommes, au milieu des impies, et même avec des apôtres qui ne le comprenaient pas, qui étaient des ambitieux, des jaloux, eh bien, pour rester dans l'équilibre en tant qu'homme, il vivait dans la communion de son Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vais préparer cette place, c'est que je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Donc, un jour, dans l'éternité, nous serons en sa présence. En sa présence. Cette présence qui a valu tant de bénédictions à Abraham, à Isaac et à Jacob. Elle doit nous devenir chère. Alors, verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Dans la présence de cet ange, car il nous faut savoir qui est cet ange, tiens-toi sur tes gardes. Soyez conscients de sa présence. Il est là, mais il faut nous tenir sur nos gardes. On a été aussi exhorté, n'est-ce pas, à être sur nos gardes. Soyez sur vos gardes. Pas seulement parce qu'il y a des impies qui pourrait nous influencer, mais parce que nous sommes conscients qu'il y a le Seigneur. Nous ne voulons pas marcher avec les impies, vivre avec les impies, mais nous voulons marcher avec le Seigneur. Et quand nous marchons dans la présence du Seigneur, nous devons nous tenir sur nos gardes. Attention, c'est pas copain-copain. Oh, maintenant, hein, le Seigneur, c'est notre chum. Où est-il ce respect dû à la divinité? C'est bien l'heure de retrouver ce sens de la divinité de notre Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Il est ton Seigneur, dit le psaume 45. Et parce qu'il est ton Seigneur, adore-le. Adore-le. Il est ton Seigneur. Adore-le. Le seul que nous puissions adorer, c'est lui. Et il nous demande ce matin d'être dans cette disposition de l'adoration. Il est ton Seigneur. Adore-le. Alors, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence. Et écoute sa voix. Donc, ce n'est pas fait du bruit, mais écoute sa voix. Ne lui résiste point, car quand on entend sa voix, ce qu'il nous demande quelquefois ne trouve pas toujours un cœur disposé à marcher dans ses voies, dans ses sentiers. Mais si nous voulons que le Seigneur nous parle, si nous sommes conscients de sa présence, eh bien, nous devons écouter sa voix, ne pas lui résister. Parce qu'il est dit, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui, attention. Pourtant, c'est lui qui pardonne nos péchés, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, mais si sachant cela, si connaissant cette œuvre qu'il a accomplie une fois pour toutes à la croix, nous continuons de pécher volontairement, nous pouvons toujours nous laisser surprendre, mais si c'est quelque chose de volontaire, mais Jésus est mort pour mes péchés, bonne affaire, il a tout porté, aussi bien mes péchés passés que mes péchés présents et que mes péchés futurs, eh bien, que je continue de pécher afin que la grâce abonde. Attention, alors non. Là, il n'y a pas de pardon. Il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. On ne se moque pas de Dieu. mon nom est en vous. Quel est ce nom? Ah, Jacob, luttant avec l'homme inconnu dans cette nuit terrible avant qu'il rencontre Ésaü, eh bien, quand il s'abandonne finalement à celui qu'il croyait être un ennemi, quand il voit qu'il est vaincu, eh bien, il s'accroche à son adversaire, à celui qu'il a pris pour son adversaire, et lui dit, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'y bénis. Il le bénit là. Vous pouvez recevoir là, ici, sa bénédiction. Après vos luttes, après vos combats, cessez vos luttes, abandonnez-vous, accrochez-vous à lui et recevez sa bénédiction. Il le bénit là. Alors Jacob lui demande, quel est ton nom? Et l'inconnu lui dit simplement, pourquoi demandes-tu mon nom? Il ne lui donne pas de réponse. Mais nous savons, dans une autre occasion, que son nom, il est merveilleux. Manoah a reçu cette réponse, lui aussi, dans les juges, ayant rencontré le Seigneur, l'ange du Seigneur. Il a demandé, mais quel est ton nom? Et l'ange lui a répondu, il est merveilleux. Et nous allons vers Noël, nous allons rappeler les noms qui sont donnés au Seigneur, nom merveilleux, prince de paix, Dieu fort, Père éternel. Hein? Mon nom est en lui. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, qu'est-ce qui vous arrivera? C'est tellement beau, ça. Je serai l'adversaire de tes adversaires. C'est pas vous qui mènerez le combat. C'est lui. Si vous restez caché dans le nom du Seigneur, si vous restez conscient de sa présence, si vous prenez garde qu'il est là, à tout instant, dans vos occupations les plus diverses, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Notre vie, elle a changé. Le Seigneur est là. On a des difficultés, on a des conflits, on est incompris, on a des adversaires même. Mais c'est plus nous, c'est plus nos adversaires. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Est-ce que vous voulez prendre ce verset? Nous n'avons pas besoin de donner des noms à ces adversaires, mais je serai l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Et puis là, il te conduira dans le pays des Amoréens, des Hétiens, des Phéréziens, des Cananéens, des Héviens, des Jébusiens, et je les exterminerai. C'est pas notre affaire, nous, d'exterminer nos ennemis. C'est le Seigneur qui exterminera nos ennemis. Et ces ennemis, il faut pas voir seulement des hommes de chair et de sang, mais il faut voir nos ennemis intérieurs. Ici, il y en a 6 qui sont cités. Habituellement, il y a 7 nations qui sont toujours citées. Et ces 7 nations qui possédaient le pays de Canaan, eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui les dépossédera. Et tout ce qui nous entraverait pour jouir de cette bénédiction dans la présence du Seigneur, c'est lui qui va nous en libérer. Mais alors, verset 24, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Donc, je connais mes tendances, je connais mes ennemis, je n'ai pas besoin de chercher mes ennemis en dehors de moi-même, je sais quelles sont mes tendances. Et au lieu de brûler de l'encens à mes tendances, au lieu de satisfaire mes idoles intérieures, je les brise. Je ne me prosterne point devant ces dieux des nations ou qui risquent d'être encore mes dieux à moi. Je ne vais pas les servir. Tu ne les imiteras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Mais tu les détruiras. Tu briseras leurs statues. Et alors, verset 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et qu'est-ce qu'il arrivera quand on sert l'Éternel, notre Dieu, mais pas à moitié, mais de tout son cœur. Eh bien, il y a 4 bénédictions qui nous sont données dans sa présence. je bénirai votre pain et vos eaux. C'est vraiment ce dont on a besoin dans ce monde pour vivre. C'est le sermon sur la montagne. Ne vous mettez pas en souci de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez. Le Seigneur prendra soin de nous et nous donnera ce qui est nécessaire pour notre nourriture, le pain et l'eau. Et puis, une deuxième bénédiction, j'éloignerai de toi les maladies. J'éloignerai de toi les maladies. Il peut me donner la santé dont j'ai besoin. Cette santé, j'en ai besoin. Eh bien, il peut me la donner. Et il peut me préserver de certaines maladies. J'éloignerai de toi les maladies. Mais qui est-ce qui fera ça? C'est toujours lui. C'est jamais nous. Nous prenons toute espèce de précaution nous-mêmes, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais au fond, qui est-ce qui peut éloigner de nous les maladies? C'est lui. Et verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Une autre bénédiction, c'est la fécondité. Vous porterez du fruit, et du fruit qui sera à la gloire de Dieu. Il y aura une fécondité dans vos vies. Vos vies doivent devenir fécondes. Qui est-ce qui peut rendre féconde une vie? C'est le Seigneur. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons rendre fécondes nos vies. Et nos entreprises, eh bien, si c'est vraiment dans la dépendance du Seigneur que nous agissons, elles n'avortent pas. Or, vous avez dans l'œuvre de Dieu un tas d'avortons. Il y a un tas d'œuvres qui avortent. Puis pourtant, on y était allé de tout notre cœur. On pensait que c'était la volonté de Dieu. Et puis ça finit par un avortement. Le Seigneur, quand c'est son œuvre, eh bien, il l'amène à son terme. Vous pouvez être sûr de cela. Alors, séparez-vous de toutes ces œuvres qui avortent. Ce n'est pas du Seigneur. Et puis, une quatrième bénédiction, je remplirai le nombre de tes jours. Tu ne seras pas retranché à la moitié de tes jours. J'accomplirai le nombre de tes jours. La quatrième bénédiction, c'est la longévité. Et Abraham, lui, est arrivé à cette longue et douce vieillesse. Et quand il a été repris, il avait achevé sa tâche. L'apôtre Paul aussi peut dire, moi j'ai achevé ma course. Mais plusieurs années avant, il disait, ah, pourvu que j'achève ma course, pourvu que j'achève. Il était conscient que si nous ne veillons pas, il peut nous arriver des choses qui obligent le Seigneur peut-être à nous retrancher. C'est pas qu'on est perdu, mais on n'est plus capable d'être un témoin sur la terre et le Seigneur nous enlève. C'est ces gens qui commettent le péché qui mène à la mort et pour lequel on n'a pas à prier. Nadab et Abihu, est-ce qu'ils devaient mourir comme ils sont morts? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui étaient Nadab et Abihu? Les fils d'Aaron, sacrificateurs, qui avaient pourtant été dans la présence de Dieu, ils avaient vu la gloire de Dieu, ils avaient mangé dans la présence de Dieu. Et ils virent Dieu, est-il dit, et ils mangèrent et burent. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Et ces deux hommes, quand ils ont dû accomplir leur service dans le tabernacle, qu'est-ce qu'ils ont osé faire? Ils ont osé innover. Dieu avait bien prescrit comment on devait apporter l'encens. Et ce qui devait composer l'encens. Eh bien, eux, ils ont dit, on va changer un petit peu tout cela. Hein? Parce que Dieu, au fond, il faut qu'on l'aide. Il n'a pas toujours toutes les bonnes idées. Moi, j'ai des bonnes idées, alors je veux faire. Et ils ont offert un feu étranger. Hein? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le feu de Dieu est sorti et les a consumés. Ne dites pas, oh monsieur, c'est des histoires de l'Ancien Testament. Elles doivent être dans vos pensées. Et ces exemples-là nous ont été donnés pour nous servir d'exemple afin que nous ne suivions pas ce qui se fait dans le monde et que nous ne suivions pas ce qui se fait même dans nos milieux évangéliques. Il faut avoir une colonne vertébrale. Il faut savoir résister. Résister dans l'amour. Mais il faut avoir des convictions. Et quand on nous demande, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire ceci ou cela? Parce que la parole de Dieu nous le dit. Jésus m'a donné un exemple. Il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père. Est-ce que ça c'est du Père? Est-ce que le Père ferait cela? Est-ce que c'est quelque chose qui est digne du Père? De ce Père au cœur de mère, oui, il est tendre, mais il est aussi saint. Alors voilà, les bénédictions que l'on a quand on vit en sa présence, mais il faut prendre garde. Il faut prendre garde. Quand on est conscient de sa présence, il est là. Il est là. Le Seigneur est là. La présence de Dieu. Car vous savez, si nous nous moquons de Dieu, qu'est-ce qu'il arrivera? Bien, ce que vous lisez au chapitre 14 des Nombres, et c'est quelque chose de terrible. On peut avoir de la joie en sa présence. On verra qu'on peut épancher nos cœurs en sa présence. Mais aussi, si nous ne marchons pas avec fidélité, on peut tomber au désert. Verset 34 du chapitre 14 des Nombres. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est quoi? Qu'être privé de ma présence. Amen. Que Dieu nous garde de cela. Vous pouvez accepter toutes les épreuves, mais ne pas être privé de sa présence. C'est ça qui compte. Ne pas être privé de sa présence. Vous saurez ce que c'est qu'être privé de ma présence. Lui qui veut être l'adversaire de nos adversaires, lui qui voudrait tracer notre route, qui voudrait marcher devant nous. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous marchons devant, puis nous traînons le Seigneur. Nous voudrions le traîner après nous. Viens Seigneur pour m'aider dans les coups durs. Hein, mais nous sommes devant. Et ton aile, alors j'en ai besoin. Je t'appellerai Seigneur. Mais viens avec moi. Ce n'est pas cela. Le bon berger, il marche devant ses brebis. Il appelle ses brebis et ses brebis le suivent. Ne marchez pas devant le Seigneur. Laissez le Seigneur marcher devant vous. Et alors, vous achèverez aussi vos jours. Les fils d'Élie, ils n'ont pas achevé leurs jours parce qu'ils ont commis des abominations. Et ils étaient pourtant sacrificateurs de l'Éternel en présence de leur père. Mais Élie a honoré ses fils plus que Dieu. Et ses fils ont été retranchés à la moitié de leur jour, comme vous le lisez dans le livre de Samuel. Et on a d'autres exemples. Saül aussi, qui était loin de l'Éternel, a désobéi à la voix du Seigneur alors qu'il avait connu sa présence. Eh bien, lui aussi est tombé sur les montagnes de Gilboa. Maintenant, je passe au psaume 62. Toujours avec ce mot de la présence du Seigneur. Psaume 62, verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur moi repose mon salut. Une drôle de version, hein, ça. Sur Dieu. Oh, mes amis, que le Saint-Esprit nous le dit définitivement. Sur Dieu. Repose mon salut et ma gloire. Je ne l'ai pas ailleurs. Ma gloire, elle est sur Dieu. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. répandez vos cœurs en sa présence. Voilà, voilà ce qu'il nous est donné ce matin. Nous pouvons répandre nos cœurs en sa présence, car Dieu est notre refuge. Prenez maintenant le psaume 65. Verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Est-ce qu'il vous admet en ta présence? Qu'est-ce qui vous invite? Un groupe? Une secte? Des frères qui vous ont examiné? Ou qui ne veulent pas vous examiner? Seigneur vous admet en sa présence. Que c'est beau quand c'est le Seigneur qui parle. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Jésus l'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, hein, c'est moi qui vous ai choisi. Vous voyez comme c'est vrai la parole, que vous preniez l'Ancien Testament, que vous preniez le Nouveau Testament, tout se rejoint. Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temps. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Il faudrait vraiment que dans nos vies, il y ait quelques prodiges. Hein? Nous le savons bien. Et nous le demandons au Seigneur, que pour chacun de vous, le Seigneur fasse son prodige intérieurement. Ce prodige de nous donner sa paix, de nous donner sa joie. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Quel est l'espoir du monde? Ils ne le connaissent pas encore, mais c'est pourtant le Seigneur seul à son retour en gloire. Il est notre espoir. Alors je termine par quelques versets du psaume 22. Où nous allons entendre encore une fois le Seigneur, comme nous l'avons entendu dans les Actes, quand Pierre cite David, c'est, dit-il, le Seigneur lui-même qui parlait de sa vie et de sa résurrection. Dieu n'a pas laissé le corps de son Fils dans la mort. Il l'a vraiment ressuscité. Pierre disait, cet homme qui était venu de Dieu, vous l'avez livré. Vous l'avez fait périr par la main d'homme inique, vous l'avez crucifié. Mais le Seigneur l'a ressuscité. Alors nous avons un Seigneur ressuscité, un Seigneur vivant. Dans le psaume 22, vous avez dans tous les premiers passages le récit de la crucifixion du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais depuis le verset 23, vous avez le Seigneur ressuscité. Je publierai ton nom parmi mes frères. Est-ce que nous sommes ses frères? Alors, qui est-ce qui va nous bénir ce matin? Qui est-ce qui est là? C'est lui. Je publierai ton nom parmi mes frères. Où est le Seigneur? Il accepte de venir au milieu de nous. Il n'a pas honte, malgré tout ce que nous sommes, de faiblesse et de misère, de nous appeler ses frères, même devant son Père. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et il nous couvre de ses perfections. Vous êtes à l'abri des perfections de Jésus, vous êtes couverts, vous êtes revêtus de Christ, si vous acceptez le Christ. C'est pas seulement un Christ intérieur, mais c'est un Christ qui vous revêt de ses perfections. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, qu'est-ce qu'il vous demande maintenant? Louez-le. Louez-le. Mais en même temps, tremblez devant lui. vous tous, postérité d'Israël, et tous ceux qui croient au Seigneur sont vraiment de la postérité de l'Israël véritable. Vous êtes les enfants d'Abraham, la postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des peines ici? Bien, les sentiments du Seigneur qui est au milieu de nous, à notre égard ce matin, il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Ah, vous savez, nous sommes des gens durs. Avoir du dédain pour les peines, c'est ne pas s'en occuper. Je sais que tu es dans la peine. Ça ne m'intéresse pas. J'en ai d'autres. Mais si un membre souffre, tous les autres souffrent. Si un membre est glorifié, tous les autres se réjouissent. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il ne lui cache pas sa face. Il ne lui cache pas sa face. Vous ne serez pas privé de sa présence. Vous ne saurez pas ce que c'est qu'être privé de sa présence. Mais il écoute quand il crie à lui. Qu'est-ce qu'il crie à lui? Le misérable, celui qui dit, moi je ne peux plus. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. C'est toujours le Seigneur qui parle. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Rendez-vous compte, Jésus ressuscité avait fait des vœux. Et ces vœux, il veut les accomplir pour vous. Et c'est Jésus, présent au milieu de nous, qui nous dit, j'accomplirai mes vœux à l'égard de ceux qui te craignent. Alors je me dis, mais quel vœu, Seigneur, as-tu fait pour moi? Voulez-vous te sonder le cœur du Seigneur en lui disant, qu'est-ce que tu souhaites pour moi? Quel est le vœu que tu as fait pour moi? Puisque tu as accepté de mourir sur une croix, et que si tu es mort sur une croix, c'est parce que tu m'aimais. Mais quel vœu as-tu fait pour moi? Puisque maintenant tu es ressuscité, dis-moi, fais-moi connaître les vœux que tu as fait pour moi. C'est ça la Sainte Cène, c'est le rencontrer et prendre conscience dimanche après dimanche ou chaque fois que nous communions, si c'est tous les jours, et bien que ce soit tous les jours, que nous connaissions les vœux qu'il a fait pour nous pour cette journée. Les vœux qu'il a fait pour nous pour cette semaine. Fais-moi connaître tes vœux parce que c'est lui qui va les accomplir. C'est lui qui vous dit cela, c'est sa parole. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur toutes les nations. C'est ce qui arrivera. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On arrive dans le règne millénaire. Il parlera du Seigneur à la génération futur. Il y aura, quand le Christ règnera, toute une génération d'enfants qui naîtront et qui devront apprendre à connaître le Seigneur quand Satan aura été lié, comme le dit la parole. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Eh bien, je vous demande de trouver les vœux du Seigneur dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Le Seigneur, dans sa prière et penchant son cœur devant son Père, a fait des vœux. Et qu'est-ce qu'il a demandé pour les siens? Il a demandé qu'ils soient gardés du mal. Hein? Voilà un de ses vœux. Est-ce qu'il accomplira son vœu? Vous serez gardés du mal. Vous quitterez ce lieu en disant, le Seigneur a fait un vœu. Il l'a dit dans sa prière, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. On est dans le monde, on ne sera pas ôté du monde, mais il veut nous garder du mal. Voilà un de ses vœux qu'il va accomplir. Et puis, il y en a d'autres. Il a fait un autre vœu. Il a demandé, Père Saint, sanctifie-les par ta vérité. Il désire que nous soyons un peuple saint. Et comment pouvons-nous être sanctifiés? C'est par sa vérité. Et qu'est-ce que la vérité? C'est sa parole. Ta parole est la vérité. Nous sommes conscients de sa présence. Jésus est la vérité. Sa parole est la vérité. Puis, il y en a d'autres de ses vœux qu'il a fait dans ce chapitre 17. Vous les trouverez vous-même et vous saurez qu'il veut les accomplir. Le vœu, un des vœux qu'il a fait, c'est que nous soyons un, qu'il soit un. Et voyez-vous, j'étais profondément ému ce matin en pensant à ce moment de rassemblement. Nous venons de lieux différents, nous ne connaissons pas beaucoup les uns les autres, même nous ne nous connaissions pas. Et qu'est-ce que nous formons maintenant? Nous formons une famille. Nous sommes réunis là en communauté, mais communauté du Seigneur, qui n'a pas un nom particulier. Nous sommes dans une maison qui nous a été prêtée, comme la chambre haute. Ce n'était pas la chambre haute du Seigneur, c'était une maison empruntée, c'était une salle empruntée. Et bien voilà, dans une salle empruntée, le Seigneur a célébré la scène, a institué ce mémorial de son amour. Et nous sommes ici, dans cette maison qui nous est prêtée, et nous pouvons nous souvenir du Seigneur. Que c'est beau. C'est pas compliqué, nous avons tout compliqué. Nous. Le Seigneur emploie une salle empruntée, et nous sommes autour du Seigneur. Et il dit qu'il soit un. Oh, que nous puissions réaliser tout son amour. Il a voulu nous rassembler pour qu'il y ait un témoignage que ce qui nous lie, c'est pas parce qu'on est du même groupe, comprenez-le bien, hein? C'est pas parce qu'on est de la même église, de la même communauté, c'est pas parce que nous avons exactement les mêmes vues sur tous les petits points, mais sur l'essentiel, nous sommes en communion. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, et nous voulons ensemble l'adorer, alors qu'il soit un. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée pour qu'ils soient un. Et puis, un des vœux du Seigneur, c'est que nous puissions être convaincus qu'il nous aime. Que le Seigneur nous aime. Il le dit d'une façon claire. Que le monde connaisse, verset 23, que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà son vœu. Je voudrais que le monde sache que tu les aimes, ces gens-là, comme tu m'as aimé. Est-ce que notre vie témoigne de cela? On parle toujours de témoignage. Mais est-ce que notre vie est un témoignage que nous sommes aimés de Dieu? Si nous sommes parmi les murmurateurs, notre vie ne témoigne pas de cela. Mais si nous sommes parmi ceux qui ont la louange sur leurs lèvres, parce que la louange est dans notre cœur, eh bien le monde connaîtra que nous sommes des aimés de Dieu. Voulez-vous savoir la mesure dont vous êtes aimés? Regardez. Comment Dieu aimait Jésus? Et vous saurez comment Dieu vous aime. Ça va trop loin? C'est ça la mesure de son amour. Puis un autre vœu que le Seigneur a fait, verset 26, je leur ai fait connaître ton nom, je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Que cet amour dont Jésus a été aimé soit réellement en nous. C'est là le vœu qu'il faisait. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et c'est fantastique quand il dit, moi en eux et toi en moi. Alors vous vous rendez compte, c'est toute la divinité. C'est la plénitude de la divinité qui habite dans notre vie. Et nous devons être conscients de cela. Donc, nous devrions déborder de louanges et d'actions de grâce. Voilà la préparation à un culte d'adoration où on s'oublie soi-même et où on pense à Jésus qui est au milieu de nous, au vœu qu'il a fait. Et le dernier que je cite dans ce chapitre 17 de Jean où le Seigneur parle à son Père, il dit « Père, je veux ». On a souvent souligné que c'était la seule fois que Jésus avait dit « je veux ». Et ce « je veux », il l'a dit pour nous. Pour lui, il a dit « non pas comme je veux, mais comme toi, tu veux ». Mais pour nous, il a dit « Père, je veux ». Qu'est-ce qu'il veut ? Que quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Donc, dans la présence éternelle du Seigneur. Et bien qu'en attendant ce jour d'éternité, nous vivions cette heure d'éternité. En nous souvenant que c'est Jésus qui a institué ces signes, à la fin du repas, il prend du pain qui était sur la table, le pain qu'ils avaient déjà consommé, il prend de ce pain et il dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous ». Puis il prend une coupe qui était aussi sur la table, ce fruit de la vigne, le vin. Et il l'a rempli et il l'a fait distribuer parmi les siens en leur disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour la rémission des péchés de plusieurs. Et si vous avez cru, si vous avez reçu le Seigneur, si vous vivez avec lui, si vous êtes conscient qu'il est maintenant présent, eh bien c'est lui qui vous invite. Ce n'est pas notre table. » La vraie table du Seigneur, elle est dans le ciel et cette table ici n'est qu'une expression de la table unique. Il n'y a pas plusieurs tables, dans chaque église il y aurait une table qui serait la table de telle église, une table de telle autre église. Je me souviens, il y a 10 ans environ, j'ai demandé ici à un dominicain, un grand théologien, quand est-ce que votre table deviendra vraiment catholique ? Et ce sera d'être romaine. Et il m'a regardé, il a dit, bonne question mon cher. Pourquoi est-ce que nos tables sont des tables si souvent sectaires, même dans la plus grande église, hein? Parce qu'on ne peut pas communier vraiment, si on n'est pas de ceci, si on n'est pas de cela. Et bien que nous puissions comprendre, il y a une table du Seigneur. C'est le Seigneur qui préside, c'est le Seigneur qui invite, c'est le Seigneur qui parle. C'est le Seigneur qui dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang. Et nous nous laissons maintenant conduire par l'Esprit. Amen.